Cet épisode est diffusé le 1er juin, date du funeste 12e anniversaire de l'accident du vol Air France 447. Nous tenions, à l'expérience Shiban, à adresser notre soutien aux familles des victimes, à rendre hommage et à entretenir la mémoire des 216 passagers et 12 membres d'équipage qui ont péri dans ce terrible accident.
Embarquement immédiat à bord de l'épisode 14 de l'expérience Shiban.
Salut, ça me fait plaisir de te retrouver sur un nouvel épisode de l'expérience Shiban. Je m'appelle Sébastien, et avec mon équipe, on espère que tu vas passer un moment instructif, divertissant et inspirant. Opter pour une carrière de pilote militaire permet de voler sur des machines spécifiques aux armées, de faire des opérations qui seraient trop dangereuses ou trop coûteuses pour être faites dans un cadre civil, et le tout au service de son pays. Mais une autre possibilité ouverte par les carrières de pilote militaire est de pouvoir se reconvertir, souvent au bout d'une vingtaine d'années, pour travailler dans le civil. En somme, avoir deux carrières en une, tout en restant dans son habitat naturel pour un pilote, le cockpit. David, notre invité du jour, a profité de cette possibilité pour avoir un riche parcours. Transporteur dans l'armée de l'air française, il commence sa carrière sur Transal avant d'intégrer les forces spéciales pour y faire voler des Twin Otter et des C-130 Hercule. Ça sera l'objet de l'épisode d'aujourd'hui. Mais David ayant une carrière loin de s'être arrêtée là, il reviendra nous parler dans quelques semaines de la suite de son parcours. On discutera notamment de son expérience de pilote et d'instructeur sur Twin Otter et King Air 200 en Polynésie française, avant son retour en Europe pour faire du Boeing 737 Cargo, comme Nicolas, invité de l'épisode 11. Pour revenir sur le programme du jour, c'est la première fois que nous avons un transporteur sur le podcast, et je te propose maintenant de découvrir ce monde de voyage et d'aventure grâce à David, notre invité de cet épisode 14 de l'expérience Shiban. Bonjour David, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à toi Sébastien, et aucun problème, toujours un plaisir de partager des expériences de vie comme les nôtres.
Alors, comme tu me le disais dans un coup de fil avant l'épisode, quand tu étais adolescent, ton rêve était d'être pilote de chasse plus précisément. Tu as donc fait ce qu'il fallait pour te donner les moyens d'y arriver. Après ton bac, tu as passé les concours de la LAT, l'aviation légère de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et même de la Sabena. La première réponse reçue venait de l'armée de l'air, ça t'a convenu et tu t'es donc engagé en tant qu'EOPN en août 92. Pourtant, durant la formation, tu as décidé finalement de t'orienter vers le transport. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?
Moi, j'ai toujours voulu, comme tu l'as dit, faire pilote de chasse dans l'armée de l'air ou la marine. Mais c'était vraiment le métier de pilote qui m'intéressait. Et effectivement, après mon bac, j'ai passé tous les concours possibles pour réussir à atteindre ce Graal. J'ai incorporé l'armée de l'air en août 92 avec la volonté et l'ambition de devenir pilote de chasse parce que c'était un rêve depuis tout petit, depuis Top Gun. Hein, c'est vraiment le gros déclic des gens de notre génération. Et donc, j'ai commencé ma carrière donc en août 92. Pendant un an, on suivait des formations théoriques et militaires, toujours avec cette ambiance et cette motivation de devenir pilote de chasse. Et puis en 93, on intègre Cognac, où on commence notre tronc commun, et on commence à rencontrer réellement des pilotes de chasse, de transport, pas d'hélico, mais ce sont nos instructeurs. Donc pendant un an, on côtoie ce monde et on écoute leurs histoires surtout. Et au fur et à mesure de ces échanges, de ces partages, j'ai tout de suite été attiré par le côté travail en équipage, le côté aventure quelque part, puisqu'encore en 95, il y avait un petit côté très très aventure. Ces missions en Afrique me faisaient rêver, ces tours du monde, ces rencontres, ces paysages. Même des pilotes de chasse dont certains de leurs promos étaient dans le transport regrettaient presque de ne pas avoir choisi cette filière parce que c'était leur envie. L'envie de travailler en équipage a été la plus forte. En plus, j'étais dans une promo où on était plutôt plus motivé transport quelque part, parce que j'étais avec la moitié de ma promo était avec la marine, des marins, donc qui eux se destinaient à pilote de transport ou pilote d'hélico. Donc la niaque nécessaire pour la chasse était moins présente dans notre promo et on était plus une promo basée sur la camaraderie et toutes ces choses qui sont nécessaires au transport. Donc naturellement, j'ai glissé vers le transport, vers cette envie de voyage et de travail en équipage. C'est arrivé assez naturellement, sans pour autant dénigrer la chasse, hein, puisque ça reste quand même des machines fabuleuses, et je suis toujours, même à 50 ans, en train de regarder les avions de chasse comme un gamin quand je les vois passer. Mais naturellement, mes envies ont glissé vers le transport. Et lorsqu'est arrivée la fin du tronc commun, là, il y a un amphi, où, en fonction des besoins de l'armée de l'air et de nos envies, on est orienté chasse, transport ou hélico. C'est-à-dire que le premier a le choix, hein, et puis finalement, jusqu'au dernier, il prend ce qui reste. Donc, si les premiers veulent transport et qu'il y a des places en transport, il n'y a pas de problème, ils partent en transport. En fait, dans ma promo, tout le monde a eu à peu près ce qu'il voulait. Les chasseurs sont partis en chasse. Ceux qui voulaient faire du transport ont pu intégrer ce qu'on appelait le tronc transport. Donc, on restait encore quelques mois à Cognac, où là, on commençait à travailler un travail plus spécifique, travail de mauvaise visibilité, AMV, approche mauvaise visibilité, enfin, tout ce qui était plus spécifique transport. Et à partir de là, à l'issue du tronc SP, ce qu'on appelait, on partait dans les écoles de formation. Donc, pour moi, c'était transport à avant. Sur Xingu.
C'est assez intéressant au final comment des choix de vie aussi importants se jouent à des histoires qu'on entend, à une ambiance dans une promotion. Finalement, ça se joue à pas grand-chose.
Toute notre vie, on est influencé par quelque chose. On a, je pense, nos envies profondes, nos rêves et nos croyances. En fait, la chasse, c'est effectivement... Et puis j'ai découvert une ambiance qui peut-être ne me correspondait pas. Dans la chasse, faut être quand même assez hargneux. C'est un travail assez élitiste. C'est un travail assez personnel. On est tout seul dans un avion de chasse. Hein. Faut être assez, faut avoir une niaque constante. C'est le principe de la chasse. Hein. Quand on fait du combat, faut avoir la niaque. Hein. Je me suis rendu compte que ça me faisait moins rêver, en fait. L'avion me fait rêver. Top Gun me fait rêver. Faire du combat, on va dire que ça va être rigolo le temps du combat, mais à la finalité, c'est toute ta vie que tu es en train de gérer. Et de découvrir et d'avoir un objectif tous les jours différent. Parce qu'à l'époque, la chasse, les avions de chasse sortaient peu de France. Et ce côté travail à plusieurs, au fin fond de l'Afrique ou à l'autre bout du monde, en Asie, partout, ça m'a toujours vraiment attiré, quoi. Enfin, ça m'a vraiment séduit, on va dire. Et je me suis senti en complète osmose avec ces histoires, quoi. Ou que ça, je te dis, on s'agglisse naturellement. Et on ne connaît pas la chasse avant de l'avoir côtoyée, hein. Comme le transport, comme les hélicos. Hein. Certains sont orientés hélicos chez moi, dans mon promo, parce qu'ils ont découvert d'autres affinités ou avec la mission qui est très particulière. En fait, chaque mission a ses particularités. Et si tout le monde retrouve avec ses affinités, son caractère, ses envies, ça a été ce qui s'est passé pour moi, ma promo. Donc ça a été vraiment une chance, ouais.
Alors avant de parler un petit peu des histoires, comme tu disais, en Afrique ou un peu partout sur Terre, est-ce que tu peux nous parler de la formation que tu as suivie et qui t'a mené à être qualifié pilote opérationnel sur Transal en 95?
Alors, donc, comme je te disais, après je suis parti à Avor, hein, où la formation dure un an, où là on était formé à l'IFR et au multimoteur. Ce qu'on pourrait, si on voulait faire une corrélation aujourd'hui avec les nouvelles certifications, on terminait notre formation d'Avor avec un CPLIR. Et on avait une petite formation un peu plus poussée en vol basse altitude, puisque une partie du travail sur Transal ou C-130 était destinée à faire du vol en basse altitude. Donc voilà, donc à l'issue d'abord, on est ce qu'on appelle breveté, donc on a la cérémonie de macaronnage, plus importante pour la nôtre, hein, c'est la remise de notre brevet de pilote. Et ensuite, pareil, de la même façon qu'à Cognac, il y a un amphi, ça c'est des formations professionnelles. Un amphi qui nous oriente sur des avions plus ce qu'on appelait tactiques, c'est-à-dire à l'époque le Transal et C-130, des avions logistiques comme le Nord 262 ou du TBM 700. Et moi, j'avais choisi l'aviation tactique. Hein, donc, je suis parti sur Transat. J'ai intégré l'Anjou. En janvier 95, je suis arrivé à l'escadron de transport Anjou. Et tout de suite, on nous renvoie à Toulouse, au CIET. À l'époque, donc le centre d'instruction des équipages de transport, qui à l'époque était à Toulouse-Francazal, avant de remonter sur Orléans aujourd'hui, je crois. Et donc, on part faire notre formation sur Transat, ce qui pourrait être aujourd'hui appelé notre QT. On nous apprend tous les rudiments de vol sur Transat. Une partie, c'est ce qu'on appelait la tenue machine. Donc, on fait beaucoup de tours de piste avec des atterrissages courts, des collages courts et tout ce qui est spécifique au Transat. On a toute une partie AMV, approche mauvaise visibilité, où là, on apprend un ILS, un VOR, enfin, toutes ces procédures possibles et inimaginables que l'on pouvait trouver à l'époque. Une partie travail en IFR, où on fait des voyages, bon, petits voyages, mais on apprend à le travail en IFR toujours sur la machine. Et ensuite, on termine par une phase tactique, où on apprend les rudiments de la basse altitude, avec cette fois-ci un objectif qui est à la fin le largage de parachutiste. Contrairement à ce qu'on a pu apprendre avant, où c'était juste de la basse altitude, avec savoir s'orienter et rester sur un timing. Cette fois-ci, la finalité, c'était de larguer les parachutistes. À l'issue de cette formation qui dure entre 4 et 6 mois, on revient en escadron tactique où on est ce qu'on appelait un phase 1, jeune pilote en phase 1 de progression. Ça dure à peu près 6 mois. Pendant cette phase-là, on vole essentiellement qu'avec des instructeurs qui, eux, nous aguerrissent et nous, maintenant, nous mettent dans le bain et on apprend réellement nos missions. On participe qu'à des missions opérationnelles, c'est-à-dire à l'époque, c'est essentiellement du largage parachutiste qui est une des bases du travail sur Transat et tout ce qui est vol logistique en IFR, soutien aux forces françaises, soutien aux autres armées, marines, comme armées de terre, essentiellement à travers la France puisqu'on est initialement en formation sur les basiques et rapidement on peut partir à l'étranger. J'ai fait mon premier séjour au PEX. J'étais en fin de phase 1, si on appelait. On est parti avec deux phases et puis un instructeur et on est parti en Centrafrique pendant 6 semaines.
Juste pour être sûr de bien comprendre, quand tu fais ta phase 1, t'es pas encore pilote opérationnel ?
Ah non, on a 2 ans de formation avant de passer pilote opérationnel.
D'accord, ok.
Donc on a cette phase 1, ensuite qui est sanctionnée par un test au bout de 6 mois, 1 an, et ensuite ce qu'on appelle la phase 2, où là on fait un peu plus de missions, mais sans pour autant être plus limité qu'avant. Mais surtout, on peut voler avec des gens moins qualifiés, c'est-à-dire juste des commandants de bord. Ils pensent que c'est cette phase qui permet au chef pilote de dire maintenant que tu es assez aguerri, tu peux voler avec tous les commandants de bord de l'escadron et faire des missions, tout type de missions avec un commandant de bord aguerri.
D'accord. C'est un peu comme une adaptation en ligne dans le civil ?
On va dire que c'est plus complexe parce qu'il y a une diversité de missions qui est plus importante. En fait, par rapport à une adaptation en ligne dans le civil, tu vas te faire que du vol IFR, assez classique, enfin assez standard. La standardisation, je veux dire, est assez rapide. Au bout de quelques mois ou d'un nombre de secteurs, souvent, tu lâches first off. Et dans l'aviation tactique, le nombre de missions est tellement varié qu'avant d'être, on va dire, first officer, complètement lâché, il faut pratiquement 2 ans. Parce qu'il y a énormément de missions basse altitude, parce qu'il y a énormément de missions de largage de parachutiste. Donc, largage de parachutiste, largage matériel, mission IFR standard, qui, on va dire, est presque le plus simple. Et ensuite, il y a tout ce qui est l'appréhension de l'Afrique. Voler en Afrique, c'est quand même assez particulier. Et éventuellement, même les transatlantiques, toutes ces choses-là. En fait, après, on est apte à toute mission, donc il faut qu'on soit des gens complètement aguerris sur tous les types de panels, c'est-à-dire de missions que peut proposer l'armée de l'air. Donc cette phase est longue, si ce n'est qu'elle est découpée en 2 phases, phase 1, phase 2, afin de pouvoir voler avec des gens entre guillemets moins qualifiés. C'est comme si la phase 1, on volait qu'avec des LTC et des TRI, et à partir de la phase 2, on peut voler avec tout type de capitaine. Et une fois qu'on est qualifié au bout de 2 ans, on repart à Toulouse pour faire un stage.
Alors juste LTC, TRI, pour les auditeurs les moins aguerris peut-être.
un TRE est un instructeur et un LTC est un line training captain, c'est-à-dire que c'est un captain qui est capable, qui a été en tout cas identifié par par son entreprise pour pouvoir former et instruire des gens en training ou en training, tout à fait.
D'accord. Désolé, c'était juste pour les moins aguerris des auditeurs, peut-être.
Ah oui, tout à fait. On parle avec notre jargon qui est des fois assez compliqué.
C'est normal.
Et donc voilà, donc ça dure à peu près 2 ans. C'est de nouveau sanctionné par un stage au CIED qui dure 3-4 mois, où là, le CIED va valider toutes nos compétences. Que ce soit de... Il y a un test en tenue machine. Donc, ce qu'on appelle tenue machine, on fait des tours de piste avec tout ce qu'on peut trouver comme particularité du mono, du volet zéro, du décollage court, atterrissage court. Je crois qu'il y a même quelques atterrissages grande pente. Il y a une phase AMV où on valide là notre aptitude à procéder dans tout type de, pour tout type de procédure IFR. Un voyage IFR qui permet, c'est un long voyage, hein, quand on dit voyage IFR, moi j'ai fait un aller-retour en Martinique, ça dure sur plusieurs jours, mais ça permet aux examinateurs de te tester sur le long terme et surtout d'explorer tes compétences théoriques. Durant des vols en croiseur de plusieurs heures, ils ont le temps de te cuisiner. Et Dieu sait qu'il y a des livres à apprendre. Et enfin, une navigation basse altitude avec un largage de parachutiste fictif, mais sur laquelle tu es noté. Et une fois que tu as réussi ces 4 examens, et ben tu peux enfin rentrer en escadron avec la qualification de pilote opérationnel, qui est un peu un premier graal, puisque ça te permet de voler avec tout type d'instructeur, tout type de commandant de bord, sans qu'on vienne te poser des questions à chaque vol, puisque c'est quand même une phase d'instruction qui a duré 2 ans. Donc c'est un peu les vacances. T'es qualifié, on arrête de te poser des questions, tu peux vivre un peu sur tes lauriers, et c'est vraiment la phase la plus sympa, jusqu'au pilote opérationnel. Et le reste aussi, mais il faut retravailler après.
Pour passer les échelons supérieurs, parce que une fois que tu as été qualifié pilote opérationnel, la déjà assez longue formation est loin d'être finie. Mais tu peux déjà, comme tu l'as dit, commencer à prendre part à des missions. Quel est le genre de mission réalisée par l'armée de l'air en Transal, l'armée de l'air et de l'espace maintenant? Et est-ce que ça a changé aujourd'hui par rapport aux années 90-2000?
Écoute, moi quand je suis arrivé dans les années 95 en escadron... Les missions étaient déjà extrêmement variées. L'armée de l'air a toujours participé à peu près tout. Mais notre quotidien, c'était on partait des semaines complètes en mission parachutiste. Donc on partait en semaine para, essentiellement dans le sud-ouest, puisque la 11e brigade parachutiste est basée dans le sud-ouest. Donc on partait une semaine à Toulouse, à Tarbes, à Castres. Et on rayonnait dans la région pour larguer les parachutistes. Beaucoup de soutien aux forces en France. Ça va du transport de personnel jusqu'à Solenzara quand les chasseurs partaient en campagne de tir, ou des marins, ou des familles. Si des fois, tu vois, j'ai déjà transporté des familles parce que c'était le bal de l'école de l'air à Salon-de-Provence et tu faisais la tournée des villes pour amener les familles à Salon, y aller voir leur fils au bal de l'école de l'air. Ensuite, c'est beaucoup de... L'armée de l'air avait ce qu'on appelait des vols réguliers sur l'Afrique. On disait régulier parce qu'ils avaient lieu toutes les semaines, hein, c'était les missions 4000. Donc ils passaient ou par Dakar, Abidjan, Libreville, ou qu'ils faisaient des vols via Kamena Bangui.
Les missions comment elles sont appelées? Les 4000?
Oui, on les avait 4000 puisque l'indicatif c'était Kotam 4000 quelque chose.
Ah d'accord.
C'était 4001 ou 4002, 4003, en fonction du dernier digit. On connaissait par quel chemin on allait passer.
Ok.
Ça, il y avait également les vols réguliers à l'époque sur Al-Karj qui était en Arabie Saoudite, où il y avait des avions de chasse qui étaient basés depuis l'Irak. Et puis c'était et des vols à travers le monde, hein, puisqu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le monde, la France envoie un avion avec du matériel ou du personnel pour faire du soutien aux populations. Donc même si j'ai pas participé forcément à tout, à chaque fois, un avion ou un transal décolle pour un tremblement de terre avec des gens de la sécurité civile, avec un hôpital de campagne pour une catastrophe comme quand il y a eu les inondations en Amérique du Sud. C'est aller chercher la papa mobile quand le pape vient en France. Il n'y a pas de limite à partir du moment où ça rentre dans l'avion. À l'époque, on est capable de tout. C'est transporter un Mirage F1 complètement démonté parce qu'il avait rentré son train au roulage.
C'est embêtant.
Faute maniste. Mais en fait, tout ce qui est aérotransportable, on était capable de le transporter. Donc, il fait une grande, grande variété de missions logistiques du ravitaillement en vol, puisque j'étais sur également à l'Anjou, qui était un escadron qui avait des transats qui permettaient de se ravitailler et de délivrer du carburant aux avions de chasse ou à d'autres transats. Voilà, c'est-à-dire le nombre de missions était extrêmement varié. Alors, te dire ce qui a changé avec, on va dire, les années... Enfin, ça fait maintenant 8 ans que j'ai quitté, mais c'est pas le nombre de missions, c'est malheureusement la disponibilité des avions qui a forcément induit un nombre de missions qui a baissé, sans pour autant forcément être des mauvaises missions, mais c'est ce qu'on appelle des mauvaises missions. Il n'y a pas de mauvaises missions, il y a que des bons équipages. Tu peux faire la plus belle des missions à Poitiers parce que tu es avec un équipage génial et faire quelque chose de standard, même si tu fais le tour du monde, parce que tu t'entends pas forcément, à moins d'affinité avec les gens. Et voilà, le panel de vol et de mission a baissé de par la disponibilité de l'armée de l'air. Et là, je parle plus parce que je lis les infos et aujourd'hui, il n'y a plus de transal en service, excepté le Gabriel qui fait de l'écoute. Donc, c'est essentiellement des CASA et maintenant remplacé par la 400M. Donc, je pense que le profil des missions a changé. Parce que les vecteurs ont changé. Le CASA est plus petit. On en a plus, mais il est plus petit. Donc, il doit faire des choses certainement différentes du Transam. Comme la 400M. Lui, il est beaucoup plus gros. Donc, je pense que le panel de, les choses qu'ils font sont différents. Une des missions qui était très prisée en Transam, c'était l'accompagnement de la patrouille de France. On guettait le planning des meetings pour savoir qui allait faire quoi. Ça a toujours été une mission agréable dans le sens où on était intégré au dispositif de la patrouille de France. Donc, pendant 4 jours, on pouvait vivre comme eux et on découvrait des endroits sympas et on était aux premières loges de tous les meetings.
Ah, du coup, mais enfin, c'est un peu bête comme ça, mais moi je pensais que c'était un transal qui accompagnait. Enfin, c'était toujours le même transal avec toujours le même équipage qui faisait partie de la patrouille de France qui les accompagnait, mais en fait non.
Ah non, c'était chacun son tour. À l'époque, on était 4 escadrons de Transal. Il y avait le Touraine, le Poitou, l'Anjou et le Béarn. Et c'était chacun son tour. On avait dispatché les week-ends PAF. Non. Ça aurait créé quelques jaloux s'il y avait eu le même attitré pour la PAF.
C'est vrai que maintenant, dit comme ça, heureusement que vous partagez un peu ça.
Oui, on guettait tous le planning du mois, en fait. Hein. Les missions étaient dispatchées par l'état-major tous les mois, en fonction de chaque escadron, en essayant de respecter une certaine équité dans tout ce qui était rotation Afrique, relève avion en Martinique. Les relève avions, à l'époque, c'est toujours de l'ancien temps, mais il y avait des transals en Polynésie, en Martinique, à La Réunion, à Djibouti. Et ça, ces avions, fallait les relever régulièrement pour les maintenances. Donc les relèves avions, c'était des belles missions également. Ils permettaient d'aller jusqu'à l'autre bout du monde avec la Polynésie. Et après que Chirac ait repris les essais nucléaires, certains ont même fait le tour du monde en 2 sens. Ils se sont fait arrêter en Australie, puisque personne de la Nouvelle-Zélande ne voulait pas accorder le survol. Donc ils ont dû repartir dans l'autre sens pour passer par Hawaï. C'est un grand périple. Je te dis, on a même transporté le cercueil du président François Mitterrand de Paris à Cognac. Il y a tout ce qui était transportable, on peut être transporté avec un transat.
Mais t'as pas été déçu par rapport aux histoires qu'on t'avait racontées avant, quoi.
Ah non, c'est exceptionnel. T'as 22 ans, tu te retrouves à 5 dans un avion. Même si t'es en instruction, tu découvres le monde dans une ambiance. C'est vraiment l'ambiance de franche camaraderie du transport. Qui était agréable. Tu avais l'impression quand même de transporter, de servir à quelque chose, même si c'était pas forcément humanitaire, mais tu allais toujours de A à B avec un but, que ce soit transporter des marins, des simples états-majors, mais d'avoir toujours donné un sens à quelque chose, c'était pas mal. Tout ça dans une ambiance, oui, tu as 25 ans, tu es pilote opérationnel, Et on est 5 dans l'avion à avoir 25 ans, quoi. Et l'armée te fait confiance. Elle t'a formé pour, mais elle te fait confiance. On te laisse envoler à travers le monde comme à 25 ans, t'es pilote opérationnel d'un avion de chasse qui vaut des millions d'euros, je veux dire. La formation est dure, mais en contrepartie, l'armée te fait confiance. Et c'est quand même pour son ego, pour beaucoup de choses, c'est une grande satisfaction personnelle.
Et qu'est-ce qui vient justement après? Quelles sont les évolutions après le stade de pilote opérationnel?
Eh ben, l'évolution normale, hein, c'est ce qu'on appelle le passage du repère en 6. C'est-à-dire que tu es chef de bord, c'est-à-dire, on va dire, un petit commandant de bord. Tu peux voler sur des missions simples de l'escadron. En tant qu'officier, en tant que commandant de bord, si ce n'est qu'on appelle ça un chef de bord, parce que tu ne peux pas faire tout type de vol, et tu ne peux pas voler non plus avec ces fameux phases, et ces pilotes qui sont en phase d'instruction avant le pilote opérationnel, qui correspondent dans la SAS au sous-chef de patrouille. En fait, on parle de repères en 6, puisque ce sont des repères administratifs. Et ensuite, tu passes la qualification repère en 8, qui est celle de commandant de bord. Donc là, tu es apte à toute mission de l'escadron. T'as un commandant de bord à part entière et qui correspond, si on doit faire le parallèle avec la chasse, au chef de patrouille. Et parallèlement à ça, tu poursuis aussi une formation tactique qui t'amène jusqu'au leader de section. Quand tu fais une carrière comme moi, après le bac, t'as leader de section où tu es capable de guider deux avions en basse altitude sur des missions tactiques autant, on va dire. Et après, t'as leader de peloton, là tu peux guider quatre avions. Ça, je ne suis pas allé jusqu'à cette qualification-là. En général, tu finis en escadron, en repère en 8, leader de section. On avait en plus la particularité de la qualification ravito, qui nous permettait d'être qualifié ravitaillement en vol, ce qui est aussi quelque chose d'assez agréable, qui est donné qu'aux chasseurs d'aller enquiller dans un panier. Et nous, avec les transats d'Evreux, qui avaient une perche, eh ben on avait la chance de pouvoir faire des missions de ravitaillement en vol, en tant que tanker, comme en tant que ravitaillé, et c'est assez exceptionnel.
Ouais, ça doit être quelque chose. Et t'en as fait, toi, des missions de ravitaillement en tant que ravitaillé?
Oui, mais t'es formé. Et dès que t'es pilote opérationnel, t'es formé au vol en tant que ravitaillé. On t'apprend à aller enquiller dans le panier d'un autre transal, de maintenir la position, et puis de prendre du pétrole.
Incroyable.
Ah, c'est une mission dont au début de ma carrière, elle est une particularité qui était souvent utilisée et qui malheureusement avec le temps a moins perduré, puisque la particularité du ravitaillement en vol, c'est qu'il faut mettre deux transats en l'air. Donc il faut être assez riche en avion, quoi. Et malheureusement, le déclin du transat a fait que c'est plus simple d'avoir qu'un seul avion, quitte à faire un stop et ravitailler au sol, que de ravitailler en vol. Mais la spécificité a été gardée, la compétence surtout a été gardée, car il y a des avions spécifiques comme le Gabriel qui sont toujours en service, et donc le Transal qui fait de l'écoute, qui lui nécessite du ravitaillement en vol pratiquement systématiquement. Parce que, un, il ne peut pas se poser partout, et deux, ça lui permet de rester plus longtemps en l'air. Et particularité, ça permet d'augmenter la masse de l'avion. C'est-à-dire que le Transal a une masse max au décollage de 51 tonnes, et en ravitaillement en vol, tu peux monter à 54. Parce qu'en fait, il n'y a pas les mêmes contraintes. Il n'y a pas les mêmes contraintes une fois que tu es en vol par rapport au sol. Donc tu augmentes ta masse max, pas artificiellement, tu montes l'avion à 54 tonnes une fois qu'il a décollé.
Mmh. C'est intéressant, j'y aurais pas pensé.
C'est quand même une chose auquel tu n'es pas souvent confronté.
C'est vrai.
Il y a une zero fuel weight qui t'impose une masse max au déco, et forcément, tu peux t'affranchir en vol.
Alors, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on parle de l'avion un peu plus dans le détail, du Transal, du C-160. Tu as volé sur la version classique, différente donc de la version NG, nouvelle génération. Il y avait notamment un navigateur à bord et moins d'automatisme que dans des machines plus modernes. Qu'est-ce que cette machine a de particulier au-delà de ce que tu nous as déjà dit, et quel est ton ressenti de pilote, tes souvenirs par rapport au Transal?
Alors, je vais te corriger un chouille, parce que le Transal NG, c'est le Transal nouvelle génération, c'est celui qui est ravitaillable en vol et qui peut ravitailler.
D'accord.
En fait, il y a eu les transos qui ont été faits avant jusqu'au numéro 200, c'est ce qu'on appelait les F quelque chose. Ils n'avaient pas de perche ni de panier. Ensuite, il y a eu la nouvelle génération, c'est-à-dire qu'ils ont relancé la chaîne dans les années 80. Et donc là, ils ont créé le Transal NG, qui était donc ravitaillable en vol. Et ensuite, dans les années, fin des années 2000, tous les Transals ont été rénovés. On leur a intégré une avionique avec une IRS, GPS et des HUD. Et on les a transformés en R. C'est-à-dire que le F200 est devenu le R200, le F80 est devenu le R. À chaque fois qu'un Transal évoluait, on lui mettait un R devant.
À un moment, tu as dit des transos, enfin, ça m'avait fait marrer. Un Transal, des transos, c'est ça que vous dites dans l'armée?
Ouais, c'est un peu... C'est un Transal, des Transals, mais on peut faire dire des transos.
Ok.
Ouais, donc, voilà, donc c'était juste la petite aparté sur le NG. Mais oui, Transal, lorsque j'ai débuté en 85, c'était quelque chose d'assez rustique. Hein. C'est-à-dire une avionique basique, pas de GPS. On utilisait pour se repérer à l'époque, c'était l'Omega, un système qui n'existe plus. Hein. C'était 8 antennes basées dans le monde et ça donnait une position approximative. C'était ce qu'utilisait tout le monde encore 20 ans. Donc on avait effectivement un navigateur avec nous, hein, qui lui, justement, travaillait pour la position. L'Omega faisait des visées astron, c'est-à-dire qu'on utilisait encore le sextant. Ça peut paraître aujourd'hui assez hallucinant, mais on traversait l'Atlantique au sextant. Puisqu'on n'avait pas de GPS, l'Omega ne marchait pas fonctionnellement, donc le navigateur se repérait avec les étoiles ou le soleil. Donc c'était assez épique. Et voilà, donc ce qui fait qu'on travaillait toujours de concert avec le navigateur, qui lui, c'était son boulot, hein, naviguer. Nous, les pilotes devant, à la rigueur, on avait la belle vie. Hein. On avait un mécanicien navigant qui gérait tout ce qui était technique sur l'avion, le navigateur qui gérait la position et nous donnait les indications, et nous devant, les deux pilotes, on se concentrait uniquement sur le pilotage. Mmh. C'est quelque chose vraiment de confortable. Quand je travaille en équipage 2, il y a beaucoup plus de travail.
Un équipage à 2, donc aujourd'hui, sur 737 en Europe.
Voilà, tout à fait. Ouais. Okay. Ouais, tout à fait. Mais avec la rénovation du Transal, ils ont été amenés à voler en équipage 3, c'est-à-dire juste deux pilotes et un mécano, puisque le Transal, comme il était rénové avec ses IRS, ces GPS permettaient, et avec deux FMS, permettaient d'avoir quand même une charge de travail en moins. Mais notre navigateur, il nous a vite manqué. Mmh. Donc, dès qu'il y a une phase tactique, de toute façon, la charge de travail est tellement dense, je dois travailler au minimum avec un navigateur. Les navigateurs ont eu une période trouble dans l'armée de l'air, s'il était question de les supprimer. Mais rapidement, le bon sens a pris le dessus et ils se sont rendus compte qu'il fallait un quatrième homme vu la densité des missions dès qu'elles passaient en tactique, dès que les théâtres d'opération se complexifiaient, puisque l'armée de l'air en plus a fait beaucoup plus d'opérations intégrées avec l'OTAN. Donc il a fallu garder notre navigateur et heureusement pour nous, on est resté en équipage 5, c'est-à-dire deux pilotes, deux mécanos et un navigateur.
Entre 1995 et 2000, tu as fait trois OPEX, opérations extérieures, à N'Djamena, en Centrafrique aussi, trois OPEX en Centrafrique. En gros, tu faisais un ou deux séjours par an de 6 semaines. Comment était rythmé ton quotidien sur place? Et est-ce que tu peux nous raconter quelques missions qui t'ont marqué durant ces opérations extérieures, s'il te plaît?
Alors, on appelait ça opérations extérieures parce que tous les séjours des transos à l'étranger ont commencé par des opérations. Et après, était surtout du soutien aux forces armées qui restaient positionnées. Donc, deux endroits que j'ai appréciés, hein, Bangui comme N'Djamena, avec deux types de missions différentes, deux environnements différents. Le Tchad, c'est le désert. La Centrafrique, c'est la jungle. Donc, c'est totalement des pistes en latérite, surtout en Centrafrique, des pistes en sable au Tchad. Le quotidien, c'est du soutien aux forces, donc c'est généralement un vol par jour. Donc en Centrafrique, on faisait beaucoup de vols sur Boire, où il y avait un gros détachement de Français, et qui était un endroit emblématique, puisque le général Bijard était là-bas à l'époque. Donc c'est une petite piste en latérite à Boire. Je me souviens, c'était mes premiers séjours, on était encore phase, on y allait avec l'instructeur, et donc... Comme c'était des grosses relèves de personnel militaire, tu te retrouves à faire jusqu'à 3 vols par jour, dont les derniers de nuit, et tu te retrouves à percer sur une piste qui est juste illuminée par quelques brûlots, qu'on appelait les brûlots, c'est-à-dire qu'il y avait des bidons le long de la piste que les légionnaires allumaient 10 minutes avant que le Transal arrive. Chaque bidon était gardé, puisque fut arrivé un temps où les bidons étaient piqués pour récupérer l'essence, donc la piste disparaissait dans la jungle. Donc après, les bidons étaient gardés. C'est les petits côtés sympas de l'Afrique. Et tu te retrouves donc à te poser sur des pistes en latérite. Donc la latérite, c'est une sorte de terre rouge, hein, très caractéristique de l'Afrique. Les missions qui sont marquantes, hein, donc nous, les escadrons d'Evreux, donc l'Anjou et le Béarn, on suivait les chasseurs. Donc les Mirage F1 étaient basés en Centrafrique, donc on était avec eux, ce qui permettait aussi de les ravitailler tous les jours et de faire de l'entraînement au combat. On faisait des basic flight maneuvers, c'est-à-dire qu'on se montait de l'instruction où eux devaient nous tirer dessus et nous défausser. Donc ça, c'était possible en Afrique. En France, c'était compliqué à monter. Une des missions régulières qui était à notre charge, c'était de faire le légumier. C'est-à-dire qu'on partait avec des immenses frigos aérotransportables. On allait chercher les vivres frais à Douala, où il y avait également un contingent français qui, eux, récupéraient les vivres par bateau, les conditionnaient. Et ensuite, tu avais donc le Transal qui faisait la tournée des camps pour amener des vivres frais un peu partout en Afrique, à toutes les unités basées un peu partout. Parce que, et ça va jusqu'à la langouste aux périodes de Noël, quoi. C'était une des missions principales, avec une mission oxygène, pareil, les chasseurs ont besoin d'oxygène liquide pour voler dans leur couvert, ils leur amènent de l'oxygène. Donc le seul moyen de trouver de l'oxygène liquide en Afrique, c'est d'aller à Abidjan, qui était le seul endroit où il y a une usine qui produit de l'oxygène liquide, donc on faisait beaucoup de vols sur Abidjan, où on amenait nos citernes d'oxygène liquide, qui étaient remplies, et qu'on ramenait ensuite sur Bangui ou Djamena. C'est assez épique parce que c'est la chose la plus interdite à l'aérotransport, l'oxygène liquide, parce que c'est hautement explosif et hautement dangereux. Et donc la procédure, s'il y avait une citerne qui commençait à fuir, c'était de la larguer. C'est arrivé une fois que 3 citernes se larguaient au milieu de l'océan. Et ensuite, Djamena, c'était du vol essentiellement sur le désert. On montait beaucoup dans le nord, vers Faya, Fada. C'est un paysage totalement hallucinant, très lunaire, avec ses pitons rocheux, et c'est un environnement extraordinaire. Et là-dessus, ensuite, on s'entraîne essentiellement avec les militaires, au cas où on doit faire la guerre. Donc c'est du largage de parachutistes, beaucoup de posées d'assaut, où on simule un posé débarquement de militaires qui a une opération particulière à faire, et on revient 10 minutes après les récupérer. C'était une des missions les plus sympas, entraînement posé d'assaut, que ce soit sur des pistes en latérite ou des pistes en sable. Au milieu de rien, hein, c'est-à-dire que certaines pistes étaient juste balisées par six fûts de pétrole au milieu du désert. C'est des souvenirs les plus exotiques que l'on a et les plus agréables, quoi. Des posées au milieu du désert sur des pistes qui n'existent pas, si ce n'est qu'elles ont été balisées par le génie. C'est vraiment un moment agréable. Et c'est, techniquement parlant, on fait ce dont pourquoi on a été entraîné, quoi. Et toute notre vie, on nous entraîne à faire du posé tactique, du posé d'assaut au milieu du désert. Et ces séjours en opération, même si c'est de l'entraînement, nous permettent de faire ça, quoi. Ce qu'on peut pas faire en France, on s'entraîne en France, mais on fait semblant.
Mais comment ça se passe, du coup, tu largues des parachutistes qui ensuite vont créer une piste sur laquelle tu vas te poser, ou alors c'est...
Ça peut arriver si on monte un exercice complet, c'est ça l'idée, ouais. C'est-à-dire que tu largues les premiers, le génie, qui eux vont te créer ou te baliser une piste en fonction de plein de critères. Ils utilisent ce qu'on appelait ça doit toujours exister, le pénétromètre à choc. C'est-à-dire que c'est une sorte de marteau avec une gueuse là qui permet de connaître la résistance d'un terrain. Et en fonction du nombre de coups qu'il faut pour enfoncer le pénétromètre, tu sais si tu peux poser un transal, un C-130 ou autre chose. Et oui, après tu viens, tu te poses et tu infiltres ou tu exfiltres le personnel, quoi. Et du soutien aux forces. J'ai déjà largué dans des réserves parce que l'armée de terre était partie faire une longue et longue tournée. Et ben, comme ils sont loin de leur base, ils créent. Donc tu largues des pneus, tu peux larguer des boîtes de vitesse, évidemment à boire, enfin, tout ce dont ils ont besoin. Mmh. C'est du soutien. Soutien aux forces, hein, comme on dit.
Et quand tu te poses comme ça sur un terrain en sable, j'ai vu des photos de Transal sur Internet où on voit le Transal avec du sable tout autour. C'est... Vous faites une manœuvre particulière pour ça ou pas?
Bah en fait, quand tu te poses avec le minimum de vitesse, donc on était volé 40 avec les aérofins sortis, souvent les pistes sont courtes, donc c'est dès que tu touches, c'est plein reverse. Et évidemment, plein reverse, tu renvoies la poussière devant. Et il y a une procédure qui dit que quand le pilote commence à voir arriver la poussière au niveau des moteurs, il annonce poussière dans le cockpit, et c'est à ce moment-là que le pilote en fonction doit ramener les manettes devant. Mais il y a toujours un petit temps de latence qui fait que toutes les photos de Transal, tu vois le Transal qui est envahi d'un seul coup par la poussière, avant qu'elle se mette à disparaître.
Mais je pense que c'est une image comme ça qu'on va utiliser pour la couverture de l'épisode, parce que c'est vachement c'est impressionnant.
Ouais, et puis le Transal était fait pour ça, donc il n'y avait aucun souci, ses moteurs pouvaient absorber du sable. Ils en retiraient à chaque grande visite, mais c'est pas grave.
Alors, indépendamment de ces OPEX en Afrique, tu as notamment fait un pont aérien sur la Yougoslavie, un aller-retour en Australie sans transpondeur, une mission au Brésil et au Chili. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça, s'il te plaît?
Ouais, j'en ai fait beaucoup. Bah, écoute, toutes les missions étaient sympas, parce qu'il y avait des bons équipages. L'Australie, c'était le Timor. Quand la guerre au Timor s'est déclarée, tous les pays, on va dire occidentaux, ont décidé de faire du soutien aux populations. Et l'Australie, qui était l'endroit le plus proche, est devenue la base support à Darwin. On partait de Darwin. Donc moi, je me souviens, j'ai reçu un appel. J'étais en vacances, j'étais chez moi. Il fallait envoyer le maximum d'avions avec le maximum de matériel, parce que la France avait décidé de participer à ça. Donc on s'est retrouvé dans le Transal avec, je crois que c'était un hôpital de campagne et du matériel. Et c'est parti. Donc c'est un long voyage pour aller à Darwin. Le premier soir, on dort à Héraclion. Le deuxième soir, on dort à Souda. Et là, on redécolle. Et le contrôle nous annonce qu'il n'a pas de transpondeur. Donc le mécano, il prend les choses en main. Il va derrière, il change la boîte. Il en remet une neuve. Il n'y a toujours pas de transpondeur. Et là, le contrôle nous dit, c'est pas grave, de toute façon, vous partez pour de l'humanitaire, on va se débrouiller, vous continuez votre route. Et donc, on a continué notre route via Colombo au Sri Lanka. On s'est posé ensuite à Singapour. Là, on pensait qu'on n'allait jamais repartir. Que le contrôle, en tout cas, n'allait jamais nous laisser repartir. Nous, notre transpondeur était sur off, on le mettait pas dans le plan de vol. Mais comme je disais, de toute façon, on verra bien ce qu'ils nous disent au décollage. Et donc, à chaque fois, ils nous disaient de checker la boîte et on disait que ça marchait. Et on nous disait non, ça marche pas. À chaque fois, c'était, de toute façon, comme vous partez pour le Timor, vous pouvez y aller. Donc, on a fini Singapour, Bali, on a fini à Darwin. On a déposé notre matériel. Là, les Australiens nous ont dit, c'est pas la peine de rester, on veut que des C-130. Dans leur logistique de largage au Timor, ils préféraient faire qu'un type de palette. Ils avaient des gens qualifiés, leur armée était qualifiée pour faire des palettes sur C-130. Donc les C-130 français sont restés, les Transal sont repartis. Et même périple retour, toujours sans transpondeur. Et on s'est retrouvé au décollage de Doha, je crois, où là, l'Arabie Saoudite ne nous a pas laissé rentrer sur... nous a interdit le survol, nous a dit, vous faites ce que vous voulez, mais vous vous reposez, vous n'avez pas de transpondeur. Et donc là, le commandant de bord a dû trouver une solution, on est parti avec un niveau de vol assez bas, ils nous ont laissé partir jusqu'à Djibouti. Où là, à Djibouti, il y a une base française, donc on a eu un support et on nous a changé le transpondeur et ce qui n'allait pas autour avec l'antenne et on a pu rentrer en France. Donc ça a été 15 jours de vol intense avec un bon équipage et des destinations géniales. Parce que malgré tout, même si tu pars en opération tous les deux ou trois jours de vol, t'as une journée de repos. Donc, on a eu une journée de repos à Singapour, on a pris une à Darwin, et le retour était beaucoup plus cool, donc on a pu aussi se reposer pas mal. Ensuite, vous voyez le pont aérien sur la Yougoslavie, ça, c'était dans les années 99, là, où la France a décidé de soutenir, pareil, quand la guerre a repris. Donc nous, on était basés pas loin, on était basés à Istres, à côté de Marseille, Et tous les jours, on volait sur Tirana, Skopje, pour du soutien aux forces. Et c'était bon souvenir, parce que les vols étaient assez techniques. C'était la première fois que nous, on était intégrés dans un dispositif OTAN, avec les corridors, avec les contacts avec AWACS. On se retrouvait à s'empiler sur une balise ADF avec des avions de tous les pays. Tu pouvais avoir un C-17, un C-130, un Transal empilé au-dessus de l'ADF de Tirana, puisque Tirana, il y avait que ça. Et tu te retrouvais à te poser sur un des petits aéroports avec avec une seule piste, un seul taxiway et tout type d'avion où il fallait s'organiser nous-mêmes pour pouvoir gérer un parking, gérer un dégagement. Il y avait beaucoup d'autres. On volait beaucoup en auto-info avec les autres avions afin de se réguler parce que le contrôle était incapable de gérer ça. Mmh. Et tu parles ensuite d'une autre belle mission qui était au Chili. Et là, c'est pareil, c'était du soutien aux avions de chasse qui partaient faire un exercice en Amérique du Sud, donc Brésil et Chili. On les a suivis jusqu'au Brésil. Ensuite, au Brésil, on est repassé par Brasilia, déposer une photocopieuse, comme quoi tout est possible. L'ambassade avait besoin d'une photocopieuse, donc vous avez mis une photocopieuse dans l'avion. Et ensuite, on est parti, on avait un moteur de Mirage 2000 également, et on est parti se mettre en attente à Cayenne, parce que à l'issue de leur exercice au Brésil, les chasseurs partaient au salon de FIDAE à Santiago du Chili, et Dassault avait annoncé qu'il arrivait sans moteur de rechange pour démontrer la fiabilité du 2000, mais nous avait mis en alerte à 3h à Cayenne, avec un moteur dans la benne, au cas où, et évidemment le moteur a cassé. Donc on a décollé en urgence un soir, et il a fallu qu'on rejoigne Santiago à Zap, donc on s'est retrouvé à dormir à Porto Alegre, et c'était aussi l'escale épique, parce qu'on est arrivé, je me souviendrai toujours, l'agent de l'escale nous dit « il y a un hôtel à côté de l'aéroport, mais il n'est pas bien », ou « il y en a un qui est bien, mais il est loin de l'aéroport », et comme nous on avait des horaires contraints, on a pris celui qui n'était pas bien à l'aéroport. Et le mécano, il n'a jamais voulu se déshabiller pour se coucher. Et moi, c'était crado. Mais bon, on est arrivé à Santiago. Et puis ensuite, Santiago, ils ont dépanné l'avion. On est resté 2 jours. Et puis ensuite, on est monté à Antofagasta, où il y avait une base chilienne, où les chasseurs avaient un exercice avec eux. Donc, c'était vraiment plus de 3 semaines de mission. Où on a fait l'Amérique du Sud en long, en large, en travers, et c'est pas des endroits où on allait régulièrement, quoi. Bon, la France faisait beaucoup l'Afrique, un peu l'Asie, mais l'Amérique du Sud, c'était quelque chose qu'on connaissait pas, et ça a été vraiment aussi pareil. On était vraiment un équipage super sympa, jeune, et donc on a profité de chaque endroit sans limite.
Ah, c'est génial. Enfin, on le sait déjà, mais t'es vraiment allé partout sur Terre et t'as vécu plein de choses géniales un peu partout, quoi. C'est les joies du transport à l'armée.
L'avantage du transport à l'armée, c'est oui, on avait cette autonomie une fois que tu partais, qui était assez exceptionnelle, quoi. D'une part, parce qu'à l'époque, les communications n'étaient pas aussi simples. Donc, je me souviens, on avait utilisé les valises CITA, on avait un kit pour se brancher dans les hôtels à travers les prises téléphoniques pour essayer de. Le réseau CITA, c'était ce qui était inventé par les compagnies aériennes à l'époque. Maintenant, on a Internet, mais tout ça, ça n'existait pas à l'époque. On n'avait pas de téléphone portable, tout était compliqué pour communiquer. Donc, tu avais une autonomie qui faisait que tu vivais un peu ta vie, quoi.
Et je me demande un peu, quelle est la relation entre les chasseurs et les transporteurs au sol, mais aussi en vol? Est-ce que vous interagissez beaucoup? Et puis même, là, de façon un peu plus légère, est-ce que ça donne l'impression de se balader avec un chien de garde quand on se fait escorter par un chasseur quand on est en transal?
Alors, les relations entre chasseurs-transporteurs, elles sont très faibles. Nous, quand je dis nous, c'est Escadron d'Evreux, on avait la chance de travailler avec eux comme on faisait leur citerne. Donc on avait beaucoup plus, on interagissait beaucoup avec eux et on les rencontrait essentiellement en Afrique, à N'Djamena ou Bangui, essentiellement des Mirage F1, parce que c'était ce qui était à l'époque en Afrique. Donc je me suis fait des bons copains sur Mirage F1 et on partageait les mêmes choses. En fait, c'est toujours pareil, à partir du moment où tu partages quelque chose de commun, tu crées des souvenirs communs et tu fais des amis, et à N'Djamena, il y avait tout ce qu'on appelait la zone opérationnelle. Chaque escadron était côte à côte, donc il y avait les paras, puisqu'on travaillait beaucoup avec ce qu'on appelait la BOMAP, qui servait à tout ce qui était largage. Il y avait les transals, les hélicos, les pumas, les pompiers et les Mirage F1. Donc tout ça interagissait tout le temps, et on s'est créé beaucoup d'amis, et on travaillait avec eux tous les jours. Donc est-ce que je me suis senti comme avec un chien de garde? Non, puisque à partir du moment où c'est toi le tanker, c'est toi qui es leader de la formation. Donc c'est eux qui obéissent. Donc c'est le petit côté sympa. Mais ça te fait faire des belles images. Parce que des fois on ouvrait la rampe pour pouvoir les filmer ou les photographier de près. Mais non, te dire que c'était des chiens de garde, non. Une fois je me suis fait surprendre en IFR, voilà, dans le Golfe là, où c'était pas du tout prévu. Et là, par contre, oui, c'était un F-18 américain qui était venu dans notre aile pour nous filmer. Et le contrôle n'était pas au courant, mais là, ça surprend un peu. T'es en train de boire ton café, tu tournes la tête, et t'es un F-18, armé jusqu'aux dents. Mais les Américains, ils ont toujours cru qu'ils pouvaient tout faire.
Tu disais que tu faisais parfois des BFM aussi en Afrique, avec des Mirage F1, par exemple. Qu'est-ce que t'as pour te défendre en transal face à un Mirage? Comment tu faisais?
Tes yeux et la vitesse. Les basic flight maneuver. Je dis les yeux parce que on pouvait, sur beaucoup d'avions de transport, hein, tu peux mettre une bulle. T'as souvent une issue de secours qui peut être remplacée par une bulle et tu mets un observateur. Lui permet de regarder derrière, puisque toi, tu vois pas derrière. Il peut donner des infos au pilote. Et ensuite, tu joues avec la vitesse. La vitesse et l'altitude. Comme toi, tu arrives à descendre très très bas, tu arrives à manœuvrer à des vitesses très très faibles en sortant les volets. Le chasseur finit toujours par gagner, mais après, c'est tout dépend de l'énergie qu'il veut y mettre. Et le but du jeu, c'est d'essayer de survivre le plus longtemps pour qu'il se fasse. Parce que lui, il a besoin, si j'ai bien, en Mirage F1, si je me souviens bien, ils sont obligés de tirer sous facteur de charge. Ils peuvent pas, le canon peut, ils sont obligés d'être en virage, ils sont obligés d'induire un facteur de charge. Et donc, si tu manœuvres à des vitesses de 120, 130 nœuds en transat, si tu réduis au maximum en sortant des volets, tu arrives à faire des virages très très serrés qu'eux n'arrivent pas à suivre en fait par leur vitesse, quoi. Bon, au bout d'un moment, ils ont compris que s'ils montaient, ils n'arrivaient pas en haut, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, mais ça permet d'avoir un petit temps de survie et puis d'aguerrir. C'est toujours pareil, c'est de l'aguerrissement. Hein. Si tu peux survivre en 2-3 minutes, ça permet des fois de faire ta mission ou de faire abandonner le chasseur parce qu'il n'a pas assez de pétrole. On n'est pas les, comme ils disent, les HVT, High Value Target, hein, un exercice. On est plus du tir d'opportunité, on va dire.
Tu as également fait l'Afghanistan, tu étais basé au Tadjikistan, à Douchanbé. Quelles étaient les spécificités de ce théâtre d'opération dont beaucoup de gens ont déjà entendu parler, mais qui ne connaissent pas forcément au final?
Alors, on peut dire que c'était vraiment une OPEX. On était réellement sur un théâtre en guerre, avec des combats au sol, du soutien aux forces qui se battaient au sol. Donc nous, les avions étaient basés au Tadjikistan, parce que Kaboul est un terrain qui est trop élevé. Donc les performances du Transal permettaient pas de décoller avec le maximum de performances. Donc tout arrivait au Tadjikistan. Et on partait de Douchanbé pour voler sur Kaboul, Bagram, Mazar-e-Sharif, Kunduz, Jalalabad et Kandahar. C'était les endroits où étaient basés les Français ou l'OTAN. Donc on faisait du soutien à l'OTAN. Bonne partie des vols se fait en haute altitude, hein, pour être loin des tirs missiles, et toutes les arrivées se faisaient en grande pente. C'est-à-dire qu'on calculait notre descente à 1000 ou 1200 pieds nautiques. Si on évoluait au 220, on descendait 22 nautiques avant le seuil. Donc tu descends tout sorti, enfin, il y a des techniques en transat qui te permettent de descendre tout sorti. Et t'allais vraiment, tu piques vers le sol et tu attends en regardant que la planète, quoi. Tu vois plus vraiment le ciel. Ça se battait beaucoup autour de Kandahar, donc il y avait les forces spéciales à Kandahar. Donc on les a beaucoup soutenus, même dans la douleur, puisqu'ils avaient eu des morts à l'époque, donc on se retrouve à transporter les cercueils et les ramener. Il y a eu aussi à Kandahar des choses très épiques, hein. On a amené beaucoup de munitions, hein, d'armement. Et évidemment, il fallait qu'on arrive tôt le matin, puisqu'on ne pouvait pas repartir à cause de la température qui montait. Et je me souviendrai qu'au point d'attente à Kandahar, et on attendait, il y avait un Ilouchine en finale, et quand il s'est posé sur la piste en travaux, donc il s'est écrasé, entre guillemets. Et nous, on s'est retrouvés au point d'arrêt, bloqué pendant plus d'une heure et demie, à voir la température qui montait, et on voyait qu'on n'avait plus pouvoir décoller. Donc après, il a fallu négocier avec les Américains pour décharger nos munitions sur des zones non sécurisées, puisque les Américains avaient déjà planifié leur déchargement. Donc commandant de bord a négocié avec un Américain pour décharger des munitions. C'est quelque chose aussi. Et on a eu la chance d'être tasqué, ce qu'on appelait tasqué, c'est-à-dire que c'est programmé sur une mission, hein, qui était un Kaboul-Bagram. Donc il n'y a que 20 nautiques entre les deux, 20 à 30 nautiques de mémoire entre les deux terrains. Et donc y aller en haute altitude, on pouvait pas. Prendre une altitude moyenne, c'était pas intelligent, puisqu'on pouvait être sensible au tir de missile. Donc on l'a fait en très très basse altitude, à 50-100 pieds, donc on survolait les talibans, mais ils n'avaient pas le temps de nous tirer dessus. Non, c'était un souvenir, voler en Afghanistan à 50 pieds, ça reste un beau souvenir aussi. Quoi. Bon, ça a été très bref, hein, il y avait 15 minutes de vol, mais c'était pas le profil normal de l'Afghanistan, parce que on sait faire en haute altitude. Donc on a profité de cet instant très intense, parce que tu sais que tu es quand même au-dessus de gens qui t'aiment pas. Après, on avait des fauteuils blindés, des plaques de blindage à gauche, à droite, on avait gilet pare-balles, le casque. Donc les risques étaient, on va dire, de toute façon, tous mes vols ont été avec des risques calculés. Quand tu passes un certain seuil de risque, tu fais pas le vol, quoi.
En tant que pilote militaire, tu as eu la chance de participer à des opérations extérieures, mais aussi à des exercices, je pense à Maple Flag, l'équivalent canadien du très célèbre Red Flag, pour ceux qui connaissent. Ça devait être assez incroyable de participer à un exercice aussi imposant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet exercice, nous dire ce que ça t'apporte à toi en tant que pilote, mais également aux armées des pays participants? Pourquoi il y a des exercices comme ça?
Alors ces exercices Maple Flag et Red Flag sont des exercices OTAN, où toutes les nations de l'OTAN participent afin de s'aguerrir aux procédures, au travail ensemble et à tout ce qui est phraséologie et créer un, comment dire, on crée un théâtre d'opération et on essaye d'interagir tous ensemble. Donc, c'est déjà une belle mission parce que rien que d'aller au Canada, ça fait un sacré beau vol en Transal. Une fois que t'es là-bas, on est en général deux avions, hein, c'est des leaders de section, comme je te disais, qui sont en formation là-bas, donc on part à deux avions, et on est intégré dans tout un dispositif, c'est-à-dire que tous les jours, il y a un scénario qui est créé par le commandement, en disant, pour les chasseurs, vous devez attaquer tel truc, ou détruire telle batterie d'antimissiles, pour que permettre derrière aux transporteurs de venir larguer des troupes, qui doivent aller délivrer quelque chose, ou quelqu'un. Il y a tout un scénario, une mise en place. Donc tu te retrouves dans ce qu'on appelle le range. Le range, c'est l'aire de jeu, on va dire. On se retrouve à 40 ou 50 avions là-dedans, à intégrer un dispositif qui est toujours pareil, hein. Tu décolles par batterie, chacun son tour. Et souvent, c'est les bombardiers qui décollent en premier parce que le but du jeu, c'est qu'ils bombardent, hein, qu'ils détruisent les systèmes solaires, ou en tout cas les défenses adverses. Derrière, tu as les transporteurs qui arrivent pour, eux, amener du personnel ou du matériel à des endroits clés. Et le tout est protégé par des AWACS. On est protégé par des AWACS qui nous font du guidage. On est protégé par des avions de chasse. Et on est agressé par l'équipe d'en face, ce qu'on appelle les agresseurs, hein, sont bien connus dans Red Flag ou qu'on voit à travers Top Gun. Donc, tout ça avec des mots codes à utiliser qui sont autant, avec des interactions entre tous les types d'équipage et tous les types de nations. Donc c'est très très dense. En fait, c'est très très dense à la radio. Tu te retrouves à veiller une fréquence avec ton autre avion, une fréquence avec le contrôle standard, une fréquence avec la WACS. Tu as aussi une fréquence avec la patrouille qui te protège de chasseurs. Donc tu te retrouves au début, tout se passe bien, chacun est sur son petit trait, et puis d'un seul coup, ça part dans tous les sens. Quand tes chasseurs, pour te protéger, te disent de breaker à droite, toi tu pars à droite, les autres arrivent en face, toi tu dois te réorganiser. Éviter, c'est des ranges où il y a des systèmes solaires, donc ils te tirent dessus avec des smoky SAM. Tu as également tout un système d'autoprotection de l'avion. Il détecte tout ce qui est électromagnétique autour de l'avion, donc toi tu dois interagir avec ça.
Des smoky SAM, pardon, c'est quoi?
En fait, des smoky SAM, pour avoir sur internet, hein, c'est des fausses missiles solaires. En fait, ils te tirent une fusée qui fait de la fumée et c'est censé imiter le départ d'un tir de système solaire.
Okay.
Donc toi, tu réagis en fonction de ça. Quand tu vois un solaire qui te tire dessus, bah, tu sais qu'il faut breaker ou il faut leurrer ou il faut descendre pour te mettre le plus bas possible et l'éviter.
Okay.
Donc tu as toute cette spécificité du vol qui est passionnante, puisque de toute façon, pour tout le monde, c'est à chaque fois, on envoie des nouveaux équipages pour apprendre. Tu as toute cette interaction au sol, ensuite derrière, tous les débriefings avec les autres équipages, les autres nations que tu rencontres. Et ce qui permet, lorsqu'il y a des autres, ce qui peut paraître au début un peu théorique, a été très vite mis en pratique, puisque derrière, on a eu des guerres comme la Libye, tu as eu des choses comme ça, où tu retrouvais des schémas réellement qui étaient utilisés dans ces exercices, c'était employé en réel, quoi. C'est juste une familiarisation avec la complexité de l'OTAN et des procédures qu'il faut que tu maîtrises. Alors un chasseur les maîtrise beaucoup plus vite qu'un transporteur, puisque de par nature, il passe son temps à s'entraîner avec l'OTAN. Le transporteur, on a de rares occasions de faire ces choses-là. puisque justement, nous, on fait de l'opérationnel tout le reste du temps, puisqu'on est toujours en train de transporter quelque chose. Donc, on a moins de temps pour s'entraîner, et surtout des entraînements nataux comme ça. Non, c'est vraiment l'interaction et de travailler à 40 avions en même temps qui est la plus impressionnante et la plus dense, parce qu'il faut vraiment interagir avec des choses avec lesquelles tu n'es pas habitué pour nous transporteurs, quoi. Même si les choses après se sont développées et c'est devenu quelque chose de... L'état-major a compris que c'était important, rien que par le fait que la France participait à de plus en plus d'opérations, donc il fallait intégrer ça. Donc on était même en Europe, on était maintenant intégré au ce qu'ils appellent TLP. Le TLP, c'est une qualification pilote de chasse, mais qui permet de lider un gros nombre d'avions. Donc on allait à l'époque, c'était en Belgique, à Florennes, participer à ces exercices autant, donc on faisait un peu des minima Apple Flag. Et puis maintenant, je crois que c'est en Espagne, à Séville. Donc, on essaye de plus en plus, en tout cas à l'époque où je suis parti, l'armée de l'air essaie d'intégrer de plus en plus les pilotes de transport à ces exercices autant, dont les majeurs étaient aux États-Unis, hein, c'était Maple Flag, en Canada, je veux dire, Red Flag à Nellis. Et il y avait un exercice aussi à Fairbanks en Alaska, Cop Sender, ça s'appelait. Mais là, les transporteurs y ont participé un petit peu moins. Mais il y a eu des vols aussi en Alaska. Toujours le même principe. Un endroit dégagé où on n'embête pas la population et qui permet de voler à basse altitude, voire très basse altitude. C'est les zones où on avait le droit de s'entraîner à voler à 100 pieds, quoi. Parce que c'est quelque chose quand même d'assez compliqué, dans le sens où ça demande beaucoup de concentration. Donc on avait le droit de s'entraîner à voler à 100 pieds en Afrique et dans ce genre d'exercice, quoi.
En dehors de tous ces exercices de guerre, ou en tout cas qui s'y apparentent, comme pour tous les pilotes militaires, si j'ai bien compris, tu es passé par la case instructeur. Dans ton cas, c'était sur Xingu à Avor. Quel était ton rôle et comment est-ce que l'armée t'y forme? Est-ce que tu as pris du plaisir à instruire plutôt que d'être dans le feu de l'action?
Alors, l'instruction, ça fait partie, comme tu le dis, d'une étape obligatoire de notre carrière, pour pratiquement... 90% des pilotes qui sont rentrés après le bac. C'est un peu différent pour ceux qui ont fait l'école de l'air. Donc, c'est arrivé mon tour hein, d'aller à Avor comme instructeur. On y va un peu au début. Je m'amusais et je m'éclatais tellement dans ce que je faisais chez Transal. Pour être honnête, on n'a pas envie d'y aller, quoi. Hein. En plus, on a l'impression qu'on va rater des choses. Bon, après, c'est une mutation. Hein. Donc, je suis arrivé là-bas tout en étant positif. Et donc là, c'est pareil. Première formation sur l'avion, hein, Xingu, et ensuite on est formé à l'instruction. On n'a pas vraiment de... C'est un peu une formation FI, hein, ou CRI, comme on pourrait dire aujourd'hui, hein, un instructeur en phase initiale, et on forme les jeunes CPL hier. Donc, au début, un peu déçu, dans le sens où il se passait des choses. Là, il y avait eu, à l'époque, la guerre en Côte d'Ivoire. On voyait tous nos copains qui partaient en opération, et nous, on restait là à avoir à faire de l'instruction. Et après, on cherche les bonnes choses. Et moi, j'ai toujours aimé... Enfin, c'était la première fois où j'ai fait de l'instruction. Et j'ai aimé ça, transmettre le savoir après. Transmettre ce qu'on sait, transmettre... et essayer de tirer vers le haut ces jeunes pilotes en leur transmettant tout ce qu'on peut. Et j'en fais toujours de l'instruction. Hein, je suis toujours instructeur en école. Non, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Après, toujours ce temps d'adaptation nécessaire à un changement de vie. Mais non, j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc c'est l'armée qui te forme à l'instruction et après tu te formes comme beaucoup tout seul. Hein. Essaye d'être le plus pédagogique possible. Chacun a sa méthode de pédagogie en fonction de son passé. Et le besoin de transmettre est vraiment celui qui m'a fait le plus plaisir. Parce qu'on peut pas dire que l'avion ou la mission en elle-même était exceptionnelle, mais ça fait partie des choses importantes. J'ai eu la chance d'être formé par des bons instructeurs quand j'étais à bord. Ils sont toujours mes amis actuellement. Et ouais, il y a tout un lien qui se crée. Donc c'est le côté qui est aussi... Je suis resté très ami avec beaucoup des élèves que j'ai eus à l'époque. Donc c'est gratifiant. Aucun m'est craché dessus, c'est pas mal. Alors, c'est plein de petits... Après, tu prends le plaisir où il est, c'est plein de petits souvenirs agréables avec des élèves de missions à l'étranger, puisqu'on faisait quand même des missions à l'étranger, pas les former à l'IFR. Avec eux, j'ai visité pas mal d'endroits. Et toute cette ambiance post-boulot aussi, qui est sympa. C'est des étudiants, hein, donc comme tout étudiant, ils ont des apparts, ils font leur soirée, ils t'invitent, tu crées des liens différents. Enfin, c'est cette phase-là qui durera 3 ans.
Mm.
Mais je t'avoue qu'au bout de 3 ans, j'étais très content de retourner dans les forces.
Mm.
Une bonne parenthèse.
Alors, je sais pas si ça concorde vraiment au niveau timing, mais ensuite, en 2006, tu intègres les forces spéciales, où tu voles toujours sur Transal, mais également sur Twin Otter et sur C-130, sur Hercule. Tu y restes jusqu'en 2012. Alors, on se doute bien que tu vas pas pouvoir nous raconter tout ce que tu y as fait, mais est-ce que tu peux nous en parler autant que possible, s'il te plaît? Des missions, des contraintes perso, des avions aussi, des nouveaux avions que tu découvres à ce moment-là?
Ouais, c'était une phase où je vais rester assez évasif, mais effectivement, ouais, donc... À l'issue d'abord, je suis revenu pendant 3 ans à l'Anjou, où j'ai continué mon boulot de commandant de bord, leader de section et instructeur. J'étais instructeur sur Transat. Et en 2006, j'intègre les forces spéciales. C'est un peu de la cooptation, c'est-à-dire que tu signales que tu veux y aller et c'est eux qui viennent te chercher s'ils estiment que tu rentres dans le cadre qui... Alors moule, on va dire. C'est plus une intégration, comme ce sont des petites équipes. On était une quinzaine de pilotes. Je vis un peu en autarcie. Il faut vraiment qu'il y ait une équipe la plus soudée possible. Donc ils sont plus là, plus de sujets sur ton pilotage, parce que logiquement, quand ils viennent te chercher, c'est déjà un sauteur en escadron. Donc, tu sais piloter. C'est plus par rapport à ta mentalité qu'ils viennent te chercher. Donc, j'ai eu la chance d'intégrer donc ces forces-là où on était tri-qualifiés. C'est-à-dire qu'on était qualifié Transal, C-130 et Twin Otter. Donc ça a permis de faire des avions totalement différents et tout aussi agréables chacun. Le Twin Otter, c'était un avion extraordinaire. C'est un camion de brousse. Hein. Ça tombe jamais en panne, ça passe partout et ça se pose n'importe où. Le C-130, qui est un avion plus puissant, qui peut emmener plus loin et plus vite, est moins agréable à piloter que le Transal, mais qui a des spécificités autres, et quand on est pilote de transport, on est content des fois d'aller très vite et très loin avec beaucoup de fret. Quand on fait des choses plus techniques, on est content d'avoir le Transal qui est beaucoup plus agréable à piloter. Après les missions, je ne vais pas trop m'épancher là-dessus, c'était essentiellement tout ce qui était en avance de phase par rapport aux armées. Le but du jeu, c'est d'être en avance, ou de lutter contre des choses plus particulières, anti-piraterie, anti-terrorisme, recueil d'informations, beaucoup d'entraînement avec les forces spéciales au sol, parce qu'on est devenu tellement une petite entité que c'est faut qu'une confiance inébranlable. Eux, les gens au sol avec les pilotes, et les pilotes avec les gens au sol, parce que les uns posent les autres. Et inversement, nous, on largue dans des conditions particulières. Mais ça m'a permis surtout encore d'aller plus loin dans la guérissement, dans la technique, puisqu'on permet de repousser les limites. On se pose sur des terrains très courts. On se pose sous feu éteint en utilisant nos JVN, ce qui permet de... On est dans toutes les actions, on va dire, que la France décide. Donc ça permet d'avoir une vie trépidante, puisqu'on participe vraiment à toutes les opérations françaises.
Mmh.
Et contrairement aux escadrons standards, comme on doit avoir une réactivité, une disponibilité sans faille, on avait toujours des avions. Bon, donc on n'a jamais annulé une mission cause disponibilité, ce qui permet que, qui m'a permis de faire une transition entre l'armée de l'air et les escadrons qui commençaient à décliner avec la disponibilité. J'ai eu la chance d'intégrer ces forces où on avait une disponibilité des avions sans faille, où on pouvait faire plusieurs types d'avions dans la même journée. Et j'ai vraiment aimé cette ambiance très particulière, mais avec une autonomie énorme et la confiance que te fait l'État là pour mener à bien les missions qu'on te donne, quoi. Les théâtres d'opération, en plus, sont, depuis 2006, la France est partout. Donc, entre le Mali, la Libye, les territoires en guerre, il y en a un peu partout. Donc, j'ai soutenu un peu tout ça. Mais bon, je vais pas m'épancher là-dessus.
Non, mais on se doute bien, c'est déjà très sympa de nous en parler un petit peu, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on connaît pas, quoi, d'une manière générale, et tant mieux, c'est fait pour.
Bah, oui, non, ça s'épanche jamais là-dessus. Tu trouves quelques reportages, puisque les opérations spéciales font un peu de pub quand même. Mais disons qu'on pousse encore plus loin la technique, pour pouvoir aller encore plus loin, que ce soit dans le largage et dans le poser des avions. Parce que l'intérêt, nous, des avions, c'était de larguer, ou d'infiltrer, ou d'exfiltrer des véhicules, hein, essentiellement. Donc tu vas plus loin, tu poses sur des endroits plus courts, des endroits avec des équipes plus réduites, essentiellement en Afrique. Hein. C'est quand même l'endroit où la France est impliquée un peu partout. Mmh. Et j'ai fait ça pendant 6 ans, ouais.
Okay.
Un peu plus de 6 ans.
Eh bien, merci de nous en avoir parlé. Durant toute ta période de transporteur militaire, tu me disais que tu avais ce sentiment récurrent de servir à quelque chose. Est-ce que ça a été important pour toi de donner du sens à ton job en tant que pilote? Est-ce que le simple plaisir d'être en l'air ne suffisait pas finalement?
Je dirais que le simple plaisir d'être en l'air, je l'ai toujours. Mais ce petit plus, effectivement, de servir à quelque chose est gratifiant pour son ego, hein, tout simplement. On a l'impression de faire quelque chose d'important quelque part à chaque fois. Alors après, on peut toujours te dire oui, mais t'es qu'un pion de l'État ou tu. C'est pas grave. Pas que je suis pas là pour juger. Si j'avais des problèmes avec ça, j'aurais quitté l'armée. Mais on a la chance d'avoir un pays qui fait quand même plus d'humanitaire que la guerre. C'est quand même un pays où l'état d'esprit correspond à peu près au mien. Donc on sera jamais tous d'accord. Donc tout ce que j'ai fait a toujours eu un sens. Ouais. Que ce soit soutenir nos forces, que ce soit soutenir, parce que dans chaque pays où on est, on soutient aussi les populations locales. Non, oui. On peut dire que oui, d'avoir un sens à chaque mission ou à chaque vol était quelque chose d'important. C'est de dire qu'aujourd'hui, mais après, tu prends tout ce que tu peux prendre. Hein. Aujourd'hui, je fais du cargo. Il y a pas, c'est moins gratifiant dans la finalité, on va dire. Hein. Que même en Polynésie, je travaillais avec le SAMU, donc il y avait toujours une urgence médicale utile. Mais le plaisir de voler était vraiment le premier plaisir, et voler avec du sens donne encore plus de. C'est encore plus gratifiant, quoi.
Sentir que ce qu'on fait a du sens, tout en ayant ce plaisir de voler presque comme un oiseau, voilà un beau résumé de ce dont David nous a parlé aujourd'hui. Comme je le disais en introduction, on le retrouve dans quelques épisodes. Mais entre-temps, nous accueillerons Hugo, pilote de ligne long courrier et vidéaste. Nous accueillerons aussi Marielle, pilote d'hélicoptère au SAMU, mais également pilote de ligne avec une expérience sur Airbus A320, et Clément, pilote de Cessna Caravan sur la fameuse île de Saint-Barthélemy. Voilà le beau programme qui t'attend avant de retrouver David pour qu'il nous parle de son expérience à l'autre bout du monde, en Polynésie française. Allez, conclusion. Ça y est, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de l'expérience Shiban. J'espère qu'il a été instructif, qu'il t'a inspiré ou au moins diverti. Si c'est le cas, suis-nous sur ta plateforme de podcast préférée et sur les réseaux sociaux, mets-nous 5 étoiles et un commentaire gentil si le cœur t'en dit, et n'hésite pas à parler de nous autour de toi. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle discussion avec un invité passionnant, et en attendant, porte-toi bien.